France Culture. Le journal Marion Ferrer.
Bonjour à tous. À Mayotte, Marine Le Pen est attendue sur place aujourd'hui, mais plus que les politiques, c'est l'électricité que les Mahorais veulent voir revenir. Reportage avec les agents mobilisés sur le terrain. Marineland, ses dauphins et ses orques maintenus dans de grands bassins, c'est terminé. Le parc ferme aujourd'hui, mais que vont devenir ces milliers d'espèces? L'ORTF, le démantèlement, c'était il y a 50 ans, mais le projet d'un nouvel office de radiodiffusion télévision française persiste. Marine Le Pen arrive à Mayotte. 2 jours de visite sont prévus pour la chef des députés RN, le Rassemblement National qui réalise d'importants scores ici à Mayotte. Mais la population prévient, si Marine Le Pen est en terrain conquis, les habitants attendent de l'aide concrète. Mariam Saïd Kalam est élue Renaissance au conseil départemental de Saada Cherongui.
Si Marine Le Pen arrive à Mayotte en tant que chef de parti, en tant que femme politique qui a une influence et qu'il arrive pour aider ce département, moi j'applaudis. Elle sait qu'un département français est touché, elle vient ici pour nous aider. Je ne vois pas l'inconvénient, mais pas pour faire la campagne parce que nous on n'a pas la tête à ça. La politique n'est pas la priorité du moment. La visite de Marine Le Pen, je ne l'accueille pas favorablement. Je vous dis, toutes les bonnes initiatives sont à prendre. Si elle vient ici et nous amène des cargos de vivres, comme l'a fait les ministres qui sont arrivés, on applaudit et on prend.
Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Mathieu Laurent et Gilles Gallinaro, qui ont également accompagné des agents d'électricité de Mayotte sur le terrain. Ils sont 340 au total, mobilisés sur l'ensemble de l'archipel. L'équipe qu'ils ont suivie ont la tâche ardue de rétablir un réseau qui alimente 53 000 personnes.
Ça, c'est des disjoncteurs, parce qu'il y a beaucoup de compteurs qui sont cassés dû au cyclone.
Concentrés, les équipes préparent leurs outils et vérifient leur matériel juste après le traditionnel point de situation du matin.
Donc, il reste les villages de Randema, Vendrabois.
Aucun client alimenté dans ces localités.
Là, on se prépare, on y va vers le nord.
Le cyclone a terrassé l'île le 14 décembre pendant 4 heures, de 9 à 13 heures. Dès 16 heures, réalimentation des points vitaux, hôpital, aéroport et port marchand. L'on doit ce rappel des faits précis au directeur général d'électricité de Mayotte, Raphaël Rua.
3 semaines après le passage du cyclone, on est à près de 70% de réalimentation des foyers mahorais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument prodigieux.
Anto, tu vas lâcher ?
Une équipe est à pied d'œuvre à Barakani, centre-ouest de Grande-Terre.
On remet les câbles en place. Et après, on reprend tous les branchements maison par maison.
Travaux supervisés par Sébastien Knablian.
On est agréablement surpris par la patience des Mahorais. On repart avec des sourires d'enfants qui retrouvent du courant dans la maison. Ici, il y a une école qui va pouvoir réouvrir parce qu'elle sera réalimentée d'ici ce soir. Ça nous laisse des belles images, des beaux souvenirs en tout cas.
Électricité de Mayotte promet un rétablissement de 100% du réseau à la fin du mois.
Dossier réalisé par Mathieu Laurent et Gilles Gallinaro. En métropole, la coordination rurale maintient son appel à la mobilisation aujourd'hui à Paris et partout sur le territoire. Et ce, alors que François Bayrou a promis de les recevoir à Matignon le 13 janvier prochain, tout comme la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Par précaution, tout rassemblement non déclaré est donc interdit à partir de ce soir dès 18h dans le centre de Paris et dans le secteur du marché de Rungis. Interdiction qui court jusqu'à demain matin. C'est un vestige, le symbole d'une autre époque. Le Marineland d'Antibes, plus grand parc aquatique d'Europe depuis près de 50 ans, ferme ses portes aujourd'hui. Décision prise en raison des visiteurs moins nombreux et de la fin programmée des spectacles de cétacés en 2006, interdits désormais par la loi. Mais une question persiste, que vont devenir ces milliers d'animaux marins? Marineland voulait d'abord envoyer ses orques dans un parc au Japon, mais les autorités françaises s'y sont fermement opposées. Ces parcs récupèrent souvent les cétacés pour les faire se reproduire, ce qui ne va pas dans le sens du bien-être animal. Les explications d'Anaïs Godard.
La question concerne surtout les orques et les dauphins qui coûtent très cher à entretenir. Et l'avenir des cétacés du Marineland se trouvera forcément dans un espace fermé. Les orques, par exemple, sont même nés en captivité. Il n'est donc pas envisageable de les relâcher dans la nature. Pour Céline Couder-Aubert, vétérinaire et autrice du rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable sur l'avenir des cétacés du Marineland, il y a 2 solutions.
Alors, on a plusieurs scénarios. Soit ils sont transférés vers un autre parc, un delphinarium qui va continuer à les présenter au public en Europe ou à l'étranger, soit ils sont transférés vers des sanctuaires qui sont des genres de refuges dans un milieu naturel fermé, donc une autre forme de captivité, mais en milieu naturel.
Et ces refuges naturels sont encore à l'étude. Un projet est en cours d'élaboration au Québec.
Il y a plus d'incertitudes en termes de bien-être animal avec les sanctuaires, parce qu'on connaît mal. Mais en même temps, sur le plan éthique, c'est une solution qui paraît plus attractive.
Mais rien ne dit que Marineland va choisir les sanctuaires comme lieu d'accueil. Pour ce qui est des manchots otaries ou tortues de l'établissement, les chercheurs sont moins inquiets. Ils trouveront plus facilement une place en zoo.
Anaïs Godard. Malgré son exil, il n'abandonne pas son combat pour son pays, le Venezuela. L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia est attendu aujourd'hui aux États-Unis. Il doit y rencontrer Joe Biden, étape clé d'une tournée continentale où il s'entretient avec les dirigeants de chaque pays. Alors que l'investiture de Nicolas Maduro est prévue le 10 janvier, son troisième mandat est contesté et sa réélection notamment n'est pas reconnue par les États-Unis, l'Argentine ou encore la France. Urrutia a prévu de retourner dans son pays le jour de cette investiture, alors que 100 000 dollars sont promis pour toute information permettant son arrestation par l'armée fidèle à Maduro. C'est une petite bombe qui vient d'être lâchée aux Pays-Bas. Il y a quelques jours, les archives nationales du pays ont mis en ligne une base de données publiques. Elle recense les noms de presque un demi-million de personnes, toutes soupçonnées de collaboration avec le régime nazi. Elsa Losourane, les Néerlandais se sont rués sur la plateforme.
Comme des milliers de personnes, lorsqu'elle a découvert l'existence de cette base de données, Karine, franco-néerlandaise, a voulu vérifier si des membres de sa famille n'y figuraient pas.
Alors, Goossens, G-2-O-S-E-N-S, alors nous avons Hendrik Cornelis Goossens, Hendrik Wilhelm Goossens.
Et puis après quelques secondes,
Johann Heinrich Goossens, Rotterdam. Ah oh, putain, ça ne fait pas plaisir. Ça pose de sacrées questions. Et même si c'est un lointain cousin, même si ça fait 3 ou 4 générations, ça fait quelque chose quand même.
Pour Johannes Owink Tenkat, historien spécialisé dans l'histoire de l'Holocauste, le moment est historique.
Les débats à propos de ces archives sont explosifs parce que le pays a couvert l'ampleur de la collaboration.
Le site soulève des questions éthiques d'ampleur. Parmi les 425 000 noms recensés, une large partie a été innocentée, mais le site ne le précise pas. Pour le savoir, il faut aller directement aux archives nationales à La Haye. Les demandes sont tellement nombreuses qu'une liste d'attente a dû être ouverte.
Elsa Losourane. Il y a 50 ans, c'était la fin de l'ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, TF1, Antenne 2 ou encore Radio France se naissent suite à ce démantèlement. Mais aujourd'hui, l'idée de l'ORTF est revenue dans le débat public alors que la ministre de la Culture, Rachida Dati, veut regrouper Radio France, France TV et l'INA sous une même entité. Les explications de Pierre Aupert.
Le 5 janvier 1975, Valéry Giscard d'Estaing remplit une de ses promesses de campagne, le démantèlement de l'ORTF. Pour l'historien des médias Alexis Lévrier, c'est l'image de plus en plus négative de cette entité à la suite de la mort de Georges Pompidou qui conduit à son éclatement.
Pendant toutes les années de la maladie de Pompidou, l'ORTF a menti à l'opinion publique en racontant qu'il s'agissait uniquement de grippe à répétition et ce mensonge a contribué très fortement à rendre impopulaire l'audiovisuel public. Il y avait aussi le souvenir de mai 68, les journalistes de l'ORTF ont essayé de couvrir ce conflit, parfois en bravant les interdits de leur direction. Tout cela a contribué à donner l'image d'un pouvoir médiatique qui serait directement sous la férule du pouvoir politique.
Autre raison invoquée à l'époque pour ce démantèlement, le coût des structures de l'ORTF devenu trop cher pour l'État. Un argument qui semble aujourd'hui paradoxal puisque le gouvernement souhaite regrouper les différents secteurs de l'audiovisuel public dans une holding, voire avec une fusion, et ce, par souci d'économie. Alexis Lévrier.
Le projet de holding correspond à mutualiser des moyens, notamment avoir des studios communs, avoir des rédactions qui travaillent en collaboration. Là, ça correspond à une rationalité en termes de coûts, et même les groupes privés évoluent vers ça. En revanche, le projet de fusion, il y a vraiment la volonté de revenir à une direction unique. Et on sait très bien comment fonctionnait l'ORTF. Il y a une direction unique, donc cette direction répond directement au pouvoir politique. Et on peut soupçonner le pouvoir politique de chercher une forme de tutelle. Et ça, je crois que ça serait extrêmement dangereux.
Le projet d'une holding holding, voire d'une fusion, a cependant été empêché par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier. Il n'a depuis pas encore été remis sur la table, mais resterait un des projets prioritaires de Rachida Dati.
Et nous y reviendrons dans le journal de 12h30 avec Patrick Evenot, le professeur émérite en histoire à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. La météo, fin de la vigilance orange à la neige et au verglas, mais le pays va rester aujourd'hui sous les nuages et la pluie, les températures, place au Redoux, une moyenne de 11 degrés cet après-midi.